Merci Daniel, parce qu'on a choisi comme texte la suite de ce que tu as lu. J'avais envie qu'on reparle un peu de Siméon et Anne avant de prendre la Sainte Cène. Et on fête Noël. Bon, aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'Yvette. Elle devait être là, on aurait fêté aussi Yvette. Mais en fait, Noël et Noël, c'est Jésus. Alors, on va commencer par chanter. Jésus, me voici devant toi. Donc, ce qu'on a prévu, on fait un chant, on aura une lecture, quelques réflexions, un deuxième chant. Il y a quatre chants en tout. Hein. Mais ils seront en sandwich. Alors, on commence par « Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. » On vient de chanter « Quand viendra-t-il ton jour, mon Dieu, où j'apercevrai ton visage ? Tu seras là, c'est merveilleux, les bras ouverts sur mon passage. » C'est vrai, on attend le retour du Seigneur, on attend qu'il nous accueille. Et il nous accueillera, les bras grands ouverts. Et c'est une espérance pour nous, c'est une certitude pour nous. Mais pour le temps de Luc 2, à la naissance de Jésus, ils attendaient Jésus, ils attendaient de le voir, ils attendaient de voir le Messie. Et eux, ils avaient envie de le voir. Et on va lire le récit de Siméon quand il a vu Jésus. Et on aura quelques réflexions. Alors, il vous faudra... On a besoin de soutien, parce qu'on a décidé avec Frédéric qu'on allait... On n'a pas préparé quelque chose de très structuré. On a décidé qu'on allait travailler en couple et se compléter. Et c'est un joli défi. Alors, je prends Luc 2, verset 21. Donc, Jésus est au temple. Hein. Il vient de... Il est amené au temple par Joseph et Marie. 8 jours plus tard, ce fut le moment de circoncire l'enfant. On lui donna le nom de Jésus, nom que l'ange avait indiqué avant sa conception. Quand la période de leur purification prit fin, conformément à la loi de Moïse, Joseph et Marie l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur, et pour offrir un sacrifice en sacrifice à un couple tourterelle ou 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Le Saint-Esprit lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Et quand les parents amenèrent le petit enfant Jésus pour accomplir à son sujet ce que prescrivait la loi, il le prit dans ses bras, bénit Dieu et dit « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix conformément à ta promesse, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples. » Lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Joseph, Et la mère de Jésus était émerveillée de ce qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et à devenir un signe qui provoquerait la contradiction. Toi-même, une épée te transpercera l'âme. Ainsi, les pensées de beaucoup de cœurs seront révélées. » J'ai essayé de me mettre dans les souliers de Siméon. Siméon, qui est poussé par l'Esprit-Saint au temple, il sait qu'il va rencontrer le Messie. Et je me dis, mais quel choc! Un Messie, il y a quelques jours, un bébé. Et pour moi, c'est un immense miracle de voir que Siméon l'a reconnu. Siméon a cru que ce bébé était le Messie, celui qui allait apporter la consolation d'Israël. Et ils étaient dans une situation, les Romains étaient là, on le sait, ils étaient sous l'emprise des Romains, et il arrive, et le peuple d'Israël avait besoin d'être consolé. Et il voit cet enfant, et il sait que c'est lui qui va apporter la consolation d'Israël. C'est lui qui va apporter le salut. C'est lui qui il est lumière pour éclairer les nations. Et ça me rappelle que on est en train de réfléchir à la culture du royaume. Et on est introduit dans un royaume de lumière, où tout est lumière, où il n'y a pas de ténèbres, on l'a vu. On s'est rencontrés jeudi soir, c'est vraiment, tout est lumière. Dieu est entièrement lumière. Et on a été arrachés du royaume des ténèbres pour être introduit dans le royaume de la lumière. Et Siméon réalise que Dieu est lumière. Mais il le réalise dans un moment, en voyant ce bébé tout petit.
Moi, ce qui m'a frappé, c'est vrai, on imagine, comme Cécile le disait, on imagine, on arrive, on voit ce petit bébé, Siméon, il a reçu une révélation du Saint-Esprit. C'est vraiment insisté. Il y a une révélation du Saint-Esprit et il voit, qu'est-ce qu'il voit? Un petit bébé. Alors, il sait bien que le Messie, il va venir et puis que ce sera un petit enfant, un descendant de David. Mais être là et croire vraiment que celui qui est là, qu'il voit, c'est ce Messie annoncé. Il faut vraiment une révélation du Saint-Esprit pour croire ça. Et je me disais, mais pour nous-mêmes aussi, finalement, on a tous cru en Jésus, on a tous été convaincus, on s'est convertis, on l'a rencontré. Mais dans un monde où il est étrange. Pensez à ce que ce Messie, cet enfant qu'on voit là, qui est devenu un adulte, qui est mort à la croix, est le Fils de Dieu, et Dieu lui-même, c'est complètement étrange dans notre culture, dans nos conceptions. Alors il faut vraiment un miracle du Saint-Esprit pour qu'on croie. On ne pourra pas croire sans que Dieu nous ouvre les yeux, comme il les a ouverts à Siméon. Et on est des privilégiés. Alors, on a répondu oui, on s'est tourné vers Dieu. Mais si on a vu Jésus, vraiment, c'est un cadeau que Dieu nous fait en nous réveillant, en nous ouvrant les yeux. Alors, pour Siméon, c'est le Saint-Esprit est sur lui, il lui révèle, il le pousse, il y a une action évidente, mais quand même, pour nous aussi. Une autre chose qui m'a frappé, je n'avais jamais remarqué ça, mais Alors, il y a l'histoire de Siméon qui bénit Dieu parce qu'il a vu ce Messie. Et Joseph est la mère de Jésus. Enfin, c'est mis d'ailleurs dans le texte, son père et sa mère, ce qui est assez curieux. Hein. Père et la mère, Joseph, ce n'est pas le père. Mais le texte, quand il est traduit normalement, dit « Le père et la mère, c'est ce que tout le monde pensait en les voyant, le père et la mère étaient émerveillés de ce qu'on disait de lui. » Et je me disais, quand on a mis au monde un enfant qui a été conçu du Saint-Esprit, quand on a vu des anges qui vous ont annoncé que le Fils qui naîtrait, c'est le Messie, quand ensuite il est né, et les bergers sont venus, les anges sont venus, on dit encore. Et cependant, malgré tout ça, il y a encore cette étape supplémentaire où, quand le bébé a, je sais pas, un peu plus qu'un mois, ils viennent au temple, il faut que Dieu permette et veuille encore qu'il y ait une annonce, quelqu'un qui reconfirme encore à Marie et à Joseph que celui-ci, c'est vraiment le Messie. Et je me dis, on peut avoir fait des expériences fortes où Marie peut avoir eu une révélation extraordinaire, c'est quelque chose qui s'est passé. Mais dans le monde dans lequel on est, avec toute la culture qu'on a, avec tout ce qu'on connaît, les doutes sont vite là. On a tendance à oublier les choses qu'on a vécues et on a besoin d'être reconfirmé toujours. Et je pense que quand il y a les bergers qui viennent, un peu plus tard il y aura les mages, quand Siméon est là, c'est là pour confirmer, ancrer encore Marie et Joseph dans le fait que celui qui est là, c'est vraiment l'objet de la promesse. Ils sont les parents, enfin Marie est la mère de ce Messie. Et je trouve dans nos vies aussi, on a la foi, on peut avancer, mais on a besoin de confirmation. On a besoin de faire périodiquement des expériences où Dieu nous réaffirme de notre identité d'enfant de Dieu, où Dieu nous encourage pour que tous les mensonges qui nous entourent, tous les doutes qu'on peut avoir, eh bien, tout à coup, on reçoit comme une nouvelle bénédiction pour nous confirmer dans ce sentiment on est des enfants de Dieu. Non seulement on a besoin de convertir, mais on a besoin de cette grâce de Dieu qui nous rejoint tout au long de notre vie. Et on aura un moment de prière à la fin, et une des choses qu'on aimerait dans ce moment de prière, c'est qu'on se rappelle cette année, quelles sont les choses qui nous ont rappelé la fidélité du Seigneur.
Je vous ai dit, ce qui m'a frappé, c'est que Siméon, il voit un bébé, un enfant tout petit. Et pour moi, Noël, ce n'est pas Noël si on ne chante pas un enfant si petit. C'est un chant pour les enfants, mais que j'aime beaucoup. Et la troisième strophe, c'est « Quand Jésus est né sur terre, sur une pauvre litière, peu d'hommes ont su reconnaître ce salut. » Mais pour ceux qui voudront croire, il montrera sa gloire, sa paix sans fin conduira leur chemin. Un enfant si petit, né dans une sombre nuit, sera notre sauveur. Il changera nos cœurs, et il le fait, il change nos cœurs. Et ça, Siméon déjà l'avait entendu, l'avait prévu. Il a pu dire à Marie qu'une épée transpercerait son sein et elle souffrirait. Et il est devenu notre sauveur en souffrant à notre place, en portant le prix de notre condamnation. Et on va prendre la Sainte Cène ensemble, avec reconnaissance pour ce que Jésus a fait pour nous. Ce petit enfant est venu pour mourir, pour offrir sa vie.
Moi, ce qui m'a frappé en lisant ce chant, c'est que quand on dit ces paroles, on a l'impression, pour nous, c'est une évidence, que c'est que ce petit bébé, celui qui est venu sur Terre, c'est le Fils de Dieu. Il est Dieu lui-même incarné. Mais ce n'était évidemment pas du tout ce que pensaient les gens à l'époque. Ils n'avaient pas la moindre idée dans l'Ancien Testament que Dieu lui-même s'incarnerait dans l'humanité. Ils attendaient un Messie, mais ils n'avaient pas cette conception-là. Et nous, on peut chanter ça avec cette image en tête. Et je me dis, pour les gens de cette époque, Siméon, il y a quand même des ouvertures, ce qu'il vient de le dire. L'idée que le Messie, ce serait difficile, ce n'est pas tellement dans la conception des Juifs. Et quand Siméon donne cette prophétie, ça dépasse ce qu'on pensait. Et c'est souvent le cas. Mais je me dis, nous on a l'impression maintenant, on sait bien des choses. On sait que Jésus c'est Dieu incarné, on sait qu'il est mort sur la croix pour nous sauver. On a un tas de choses que l'on sait. Mais est-ce qu'on les sait vraiment? Par exemple, l'incarnation, le fait que dans ce bébé, ce soit le Fils de Dieu, Dieu le Fils qui est présent, qui est devenu un homme. Le Fils prenant la forme humaine. Comment est-ce possible? Comment un petit bébé peut, entre guillemets, contenir Dieu? Il y a une réponse à ça, j'ai trouvé. C'est que l'univers a été conçu pour que ce soit possible. Si l'univers existe, si les êtres humains existent, c'était pour que Dieu puisse prendre la forme humaine pour vivre parmi nous. Depuis le moment de l'incarnation que l'on voit ici, le Fils de Dieu, Dieu le Fils, est devenu un homme, et il est un homme pour l'éternité. Est-ce qu'on comprend ça? Ça nous dépasse tellement. Et l'autre chose, le fait que si Jésus meurt à la croix, on sait que c'est notre salut. Il a porté nos péchés, il est ressuscité pour notre justification. On a tout un vocabulaire qui nous est familier. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Pourquoi le fait que Jésus meurt à la croix sauve l'humanité, sauve tous ceux qui se tournent vers lui? On ne comprend pas. Et c'est normal qu'on ne comprenne pas. On est petit. Mais Dieu a voulu qu'on réponde à cela. Et je trouve touchant de penser que pour quelque chose qui nous dépasse complètement, le Seigneur Jésus nous a laissé un signe pour nous dire: il y a un acte tout simple par lequel vous pouvez accueillir ce que j'ai fait, dire oui. Ça nous dépasse infiniment, on ne peut pas répondre comme on le devrait finalement à ça. Et le Seigneur nous demande: faites ceci en mémoire de moi. Il nous dépasse, mais il veut nous accueillir à notre niveau. Il veut nous accueillir où on est. Et il ne nous demande pas des choses compliquées. Il nous demande d'être autour de lui, à sa table, et à prendre ce pain qui nous parle de son humanité, de son incarnation d'ailleurs, ce vin qui nous parle de sa vie donnée, mais aussi dans son humanité. On ne va pas le saisir, mais on peut lui dire merci, simplement en obéissant à sa demande. On prie ensemble peut-être et on distribue.
Josété, on voulait dire quelques mots sur Siméon. Et ça suit par quelques mots sur Anne qui était au temple en même temps que Siméon. Luc 2, verset 36. Il y avait aussi une prophétesse, Anna, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était d'un âge très avancé. Elle n'avait vécu que 7 ans avec son mari après son mariage. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple. Elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Arrivée elle aussi à la même heure, elle disait publiquement sa reconnaissance envers Dieu et parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance à Jérusalem. Cette femme était tous les jours dans le temple et son service était le jeûne et la prière. Elle attendait la délivrance, comme beaucoup. La délivrance d'Israël de Jérusalem. Et Dieu a répondu à sa prière. Elle aussi, elle a vu l'enfant. Elle l'a vu de loin. Elle a entendu Siméon. Elle a entendu ce que disait Siméon. Elle l'a vu et elle a cru. Et ce que j'avais envie qu'on chante, c'est « Jeûner comme ma prière ». Elle n'avait que sa prière. Elle n'avait pas grand-chose. Elle était veuve. Elle vivait seule. Elle n'avait que sa prière. Mais sa prière a fait descendre Dieu sur la terre. Et nos prières font agir Dieu sur la terre aussi.
Pour moi, ce chant, il ressemble à ce que devait être l'attitude de Anne quand elle a dit qu'elle priait, jeûnait. Elle disait publiquement sa reconnaissance envers Dieu. Elle parlait de Jésus à ceux qui attendaient la délivrance. Tout remettre à Dieu. Ce n'est que la prière, parce que c'est que par là qu'on reçoit de Dieu.
On a un dernier chant. Et l'idée, c'était, je l'ai dit au début, dans le premier chant, on attendait de voir Jésus. On attendait de le voir face à face et on le verra un jour face à face. Mais ce qu'il y a de merveilleux, c'est qu'il est déjà là. On ne le voit pas, mais il est là. Et ce chant nous dit... Quand le peuple de Dieu, des quatre coins de l'horizon, quand le peuple de Dieu se rassemble en son nom, quand les cœurs s'ouvrent et que les mains se tendent, quand nos âmes soupirent à l'entendre, assoiffées de toi, Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Quand les cœurs s'ouvrent et que les mains se tendent, quand nos âmes soupirent à t'entendre, assoiffées de toi, c'est ce que... Anne a vécu au temple. Elle a vu l'enfant Jésus, mais nous, on peut dire, Jésus, tu es là. Il est là.
Quand le peuple de Dieu...
Où deux ou trois sont assemblés en son nom, il est là au milieu d'eux. Et on était assemblés ce soir. Et Jésus était là, qu'on y croit ou non, il était là. Et quand on discutait, on a préparé avec Frédéric. Frédéric m'a fait une remarque que j'ai trouvée très touchante. C'est de me rappeler la joie que Jésus a de nous voir réunis autour de lui. Il y a notre joie, c'est vrai. Qui est limité parce que On est humain, on est... Mais sa joie, elle est parfaite. Et le temps qu'on a passé entre nous a fait la joie de Jésus. Et quel privilège de pouvoir lui avoir donné de la joie. C'est 6h moins 5. Est-ce qu'on a le temps de... On pensait prier 5-10 minutes, se mettre par 2 ou 3 et pouvoir être reconnaissant de toutes les fois où on a vu Jésus dans nos vies, où Jésus nous a encouragés quand on était... où Jésus a répondu à nos prières, où Jésus a... Ou qu'on attendait encore. Peut-être qu'on espère encore. Et je trouve que l'histoire d'Anne est encourageante. Elle a attendu longtemps. On ne va pas attendre jusqu'à 84 ans, on espère. Mais qu'on puisse persévérer. Et Dieu nous encourage à persévérer dans la prière et dans la reconnaissance.